intervention, Fabrice, et puis à vous après.
Je m'interrogeais sur la définition d'image de synthèse.
Oui.
Et,
merci.
Je suis arrivé à l'informatique à cette époque-là.
Oui.
Mon premier ordinateur, ça devait être dans les années 82-81. Donc je connais bien cette époque-là et j'ai pas entendu parler de la démoscène.
Ah oui.
Qui me semble quand même un gros
tout
truc.
À fait.
Y a, à mon avis, il y a la matière, il y a beaucoup de choses à dire. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas la
démoscène, expliquez-nous.
Alors, c'est un peu lié aux jeux vidéo, si vous voulez. Donc, à cette époque-là, c'était ce qu'on appelait l'informatique familiale. Et donc, on donnait aux gens des ordinateurs, des jeunes qui découvraient, qui bidouillaient. Voilà, et il n'y avait pas beaucoup d'informations. Internet n'existait pas maintenant. Et donc, c'était comme des jeunes qui avaient des mobilettes une génération avant. Bah, ils essayaient de pousser la machine le plus possible. Et donc, y a des gens qui, en tripatouillant les machines, poussaient à fond les possibilités graphiques et de calcul des machines pour arriver à des résultats. Et en gros, c'était une espèce de le résultat de ces choses-là, ça s'appelle des démos. En fait, c'était des démonstrations de choses qu'on pensait impossibles à faire sur les machines en question. Et donc, ils repoussaient comme ça, ils arrivaient à faire du scrolling horizontaux, verticaux, en diagonale, alors que ce n'était pas prévu. Ils arrivaient, c'était ça que j'évoquais tout à l'heure, si vous voulez, on avait un écran qui était délimité, et puis ils arrivaient à écrire des choses à des endroits où ce n'était absolument pas prévu, en hackant, au sens premier, le hack. Encore les machines. Et donc il y a toute une culture de ce qu'on appelle la démoscène qui existe encore maintenant, qui allie. Donc c'est pour le coup la démoscène c'est très interdisciplinaire, même parce que au départ c'était des informaticiens, des gens qui avaient une maîtrise de la machine. Et actuellement la démoscène, c'est des équipes qui font des démos. Et dans ces équipes, j'ai vu des choses récemment où les artistes prennent une place beaucoup plus importante plus importante qu'avant sur les techniciens, on va dire. Mais ça fait partie de l'histoire, l'histoire des images de synthèse.
Tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie pour cette question. Parce que c'est un sujet qui me passionne. En fait, non, j'en parle pas directement dans mes travaux et c'est pas un champ que j'ai encore exploré.
C'est peut-être pas la 3D toujours.
Ah si, si. En fait, il y a vraiment de quoi faire. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est une histoire qui n'avait pas encore véritablement été écrite. Donc, il a d'abord fallu vraiment que je fasse ce travail de circonscription, à la fois des dates, des acteurs, etc. J'ai quelques pistes pour la démoscène. En fait, mon intention de départ était de parler presque quasi de la démoscène. Ce qui n'a pas été réalisable, parce que j'ai identifié 2-3 acteurs qui n'ont pas forcément envie de me donner accès à tout. C'est quand même une scène fermée. Je ne pratique pas, ce qui pose quand même quelques problèmes, et c'est un autre réseau. Donc pour l'instant, ce que j'ai mis en place, c'est plutôt une histoire officielle, vraiment, comme je le disais, donc qui a été promu par l'État, financé par l'État et par les laboratoires de recherche publics. Ce qui a donné lieu ensuite à l'établissement des sociétés de post-production privées, mais vraiment par détournement des outils mis en place par le public. Et je ne suis pas encore arrivée à cette démoscène. C'est marrant, j'y arrive peut-être plus maintenant avec des acteurs contemporains, c'est-à-dire maintenant que je suis en contact avec certains réalisateurs ou certains développeurs dans les sociétés de post-production françaises, telles que Micros, Guff, etc., eh bien, il y en a certains qui sont passionnés et qui ont envie de me faire rentrer dans ce milieu-là. Donc, j'espère pouvoir mettre un pied dans la porte pour aller voir ce qui s'y passe et peut-être, du coup, avoir accès à des archives. Il y a certaines archives qui existent sur Internet, mais je n'ai pas encore réussi à les dépouiller parce qu'elles sont notamment américaines. Et là, je travaillais vraiment sur le territoire français, en plus, ce qui a posé d'autres questions en termes de territoire.
Ça pose le problème de la. Tu utilisais un terme, moi j'appelle ça la renumérisation, c'est-à-dire que ces choses qui étaient produites numériques, qui étaient nativement numériques, on est obligé de passer par une phase de renumérisation. Quand on utilise, quand on veut faire tourner des programmes sur des ordinateurs qui n'existent plus, faut passer par des
émulateurs, oui.
Des ordinateurs numériques, qui sont des émulateurs, pour pouvoir les faire.
C'est la communauté du jeu vidéo qui est très forte pour ça, parce qu'il y a tous les fans qui sont vraiment présents et qui sont très actifs et qui arrivent du coup à proposer des émulateurs pour pratiquement toutes les plateformes. Et ce n'est pas encore le cas dans la 3D, puisque certains professionnels même de l'époque espéraient que j'allais leur apporter une solution pour faire marcher un programme sur une machine des années 80. Mais si vous avez des contacts sur la démo scène, avec grand plaisir, j'en rêve. Et pour la définition des images de synthèse, merci aussi, ça c'est compliqué. Bien sûr, j'ai fait la différence entre deux dimensions, trois dimensions, mais j'en suis restée donc... En fait, je voulais parler uniquement de la 3D, mais pour véritablement arriver à la genèse, il a fallu commencer par la 2D. Et finalement, tout le travail de recherche et de documentation, notamment sur la recherche en informatique graphique, donc les premiers labos, les premières thèses. La première thèse en France, c'est 1968 à Grenoble, vraiment appelée comme première thèse en informatique graphique. Et du coup, j'ai suivi le chemin des publications scientifiques, des revues, pour essayer de retracer cette histoire technique, comment on a pu d'abord tracer un point, et puis ensuite un trait, et puis ensuite une figure, et ensuite toutes les questions de l'hachurage, et ensuite des ombres portées, etc., jusqu'à la colorisation. Donc j'ai fait ce travail-là, qui là va être la genèse, et ensuite je bascule plutôt dans l'audiovisuel à proprement parler, donc comment ces outils-là sont récupérés par le cinéma et l'audiovisuel, et beaucoup la télévision.
Vous avez une autre question ?
Une remarque très courte sur l'interdisciplinarité.
Oui.
En fait, je constate aussi dans ma propre pratique que c'est d'abord nous qui nous interdisciplinarisons avant d'avoir recours à l'interdisciplinarité. Et il y a là quand même un saut qui est considérable pour nous qui n'avons pas eu l'habitude de travailler avec des outils informatiques. Oui. Donc c'est très très long. Ça ne devrait plus dorénavant être négligé par les formations, mais je crois qu'on est quand même assez loin. Et c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment pour l'avenir. Donc, quel type de formation on va construire pour que nos étudiants qui sont actuellement en L1 soient en mesure de poser des questions auxquelles ils pourront répondre dans une véritable interdisciplinarité, mais s'ils ne sont pas objectifs, ce n'est pas possible. Et je crois vraiment, c'est la conclusion à laquelle j'en ai depuis 48 heures, que j'ai écrit une communication sur ce sujet il y a deux jours. Enfin, je l'ai présenté plus tôt, mais on ne peut pas travailler uniquement avec les plateformes et continuer à se leurrer en pensant qu'on va éviter le code et on va éviter certains langages. Enfin, moi, je suis arrivée à cette conclusion. Donc, non, mais c'est un cri d'alarme, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quelque
chose. Vous n'êtes pas seule.
Le graphique que tu as montré, oui. Que tu as sans doute réalisé avec les filles, est fantastique. Mais si on n'a pas une base de données correctement, oui. Parce que ça, c'est magnifique d'arriver à des conclusions, pouvoir visualiser ce type de mouvement.
C'est trop là, oui. À vrai dire, je l'ai refait à la main.
Il faut filtrer.
Et je ne l'ai pas présenté ici dans la thèse. J'ai refait à la main. Ouais. C'était celui-là. Ben, je suis partagée parce qu'à la fois, j'avais pas cette formation du tout. Je viens des Beaux-Arts avant d'avoir été à l'université, donc c'est plus analyse des images. Et puis je suis arrivée dans le numérique parce que j'ai travaillé avec des artistes dits numériques qui font des installations immersives, interactives, etc. Mais si j'étais restée uniquement à l'université sans mettre un pied aux arts déco, où là, ils vont essayer de mixer les équipes entre développeurs, graphistes, etc., j'aurais certainement pas réussi à mettre en place tous ces outils parce que j'ai été aidée, conseillée, et que j'ai dû me former, oui, sur le tard, comme ça. Je pense que ce labo a été important pour ça, mais parce que c'était un labo qui croisait, du coup, les origines des chercheurs.
Ça va plus loin. Vraiment, le labo, l'interdisciplinarité,
Mais le cas concret, il est très important. J'aurais pas du tout eu envie de me plonger là-dedans sans ce cas concret, sans avoir, sans visualiser certains résultats. Peut-être apprendre du PHP pour me faire une base de données comme ça. Je sais pas si ça m'aurait motivé de la même manière, en fait.
C'est un peu ce à quoi je voulais réagir, c'est que en fait, disons là, on voit, c'est vraiment fascinant. Enfin, c'est un magnifique travail, mais du coup. Ce serait dommage d'en tirer la conclusion qu'en fait, comme c'est un travail isolé, il pourrait être refait par tout le monde si tout le monde avait ces fameuses compétences dont tu parlais. Parce qu'au fond, je me disais, il y a ce parcours, à un moment donné, il y a eu les ateliers de l'INATEC.
Oui.
C'était pour les corpus médiatiques, en fait, les chercheurs ou les doctorants qui faisaient ce travail où finalement, il y a à la fois la thèse et il y a la construction des conditions, possibilités même de la thèse, et du coup, l'INATEC prenait en charge un peu le partage de tous ces travaux de constitution de corpus, enfin de base de données, etc., etc., sans prétendre pouvoir en faire des versions qui permettaient des usages multiples, mais presque au contraire, d'essayer de partager des solutions qui avaient été complètement ad hoc pour une question particulière, avec une orientation qui du coup ne pouvait pas être transposée, c'est une autre manière, on va dire, de valoriser ce travail. C'est aussi de se dire ce qui avait été fait à l'époque par les ateliers d'INATEC sur les recherches, comment maintenir cette espèce de veille sur c'est vrai, ces travaux sur les productions médiatiques et informatiques.